on se retrouve avec une population qui, mondialement, n'est pas adressée d'un point de vue physiologique, alors que globalement, elle constitue la majorité mondiale. Hein, les 4, 5, 6, c'est la majorité mondiale, et qu'elle participe énormément financièrement et culturellement au dynamisme de ces secteurs.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Noélie Michou, la CEO et cofondatrice de 456 Skin, une toute nouvelle marque de soins dédiée aux peaux noires. Des crèmes pour les peaux noires? Oui, tout à fait. Et vous pouvez me croire, ce n'est pas un coup marketing. Saviez-vous que quasiment aucun soin cosmétique vendu actuellement n'est formulé pour ou testé sur les peaux noires? Or, elles ont de vraies spécificités physiologiques et cela va bien au-delà de la couleur. Vous allez tout comprendre. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Noélie.
Bonjour Chantal.
Alors, qu'est-ce qui un jour t'a poussé à vouloir créer ta propre marque de cosmétiques?
Alors, déjà devenir entrepreneur dans la beauté ou entrepreneur tout court. En fait, c'est pas du tout une voie que j'envisageais. Ça me semblait même plutôt inaccessible, vu mes circonstances. Mais alors, les rituels de beauté et surtout le rituel d'hydratation de la peau a toujours fait partie de ma vie. C'est un geste que nos mamans nous inculquent, je pense que la tienne aussi, mais alors oui. dès le plus jeune âge, et c'est encore plus le cas quand on grandit sous un climat froid et tempéré, alors qu'on a une barrière cutanée qui est faite pour le chaud et l'humidité finalement. Donc moi, j'ai grandi en Basse-Normandie, dans l'Orne, et effectivement, avoir une peau hydratée et nourrie en profondeur était toujours un challenge dans notre famille, surtout pendant les périodes hivernales. Mais finalement, avec du beurre de karité que ma mère ramenait du Cameroun, des huiles naturelles, une crème achetée à la pharmacie, on mélangeait tout ça, on arrivait à peu près à s'en sortir. Mais alors, en 2004, j'ai déménagé à Paris pour mes études supérieures. Et là, je suis un peu, malgré moi, rentrée dans un mode de surconsommation de produits cosmétiques, hein, parce qu'en arrivant à Paris, j'ai développé des allergies. J'ai développé de l'acné à 18 ans, alors qu'à adolescence, je n'en avais jamais eu. Puis, il y a eu les taches pigmentaires qui suivent forcément avec l'acné, ça va toujours de pair. Et au fil des mois qui passaient, ces taches devenaient plus foncées, complètement récalcitrantes. Et au global, j'avais une peau qui était en mauvais état, sans éclat, avec de la dyschromie et des imperfections. Tout ça à un âge où on a envie de plaire aux autres, donc un peu compliqué. Donc, je suis rentrée dans ce cercle plutôt vicieux de consommation cosmétique où j'ai acheté avec mon petit budget d'étudiante, hein, toutes les crèmes qui promettaient une peau radieuse, uniforme, anti-tache. J'ai même été tentée par le skin bleaching, hein, parce que à Paris, franchement, oui. Quand on ne trouve pas de satisfaction chez Sephora, ni chez Marionneau, ni en pharmacie, l'autre option pour les peaux mélaniques, c'est Château d'Eau et Château Rouge, où on trouve certes une offre un tout petit peu plus ciblée, mais aussi beaucoup de produits toxiques et dangereux pour la peau et pour la santé. Donc, heureusement, j'ai évité ça. Puis finalement, je me suis rabattue sur le maquillage, en fait. J'ai développé un système de camouflage de mes imperfections qui a aussi sûrement exacerbé mon problème. En 2004, je suis partie à Londres pour mes études en pensant que là-bas, je trouverais une offre plus adaptée. Puis finalement, c'était pas le cas. Donc, j'ai continué avec mon petit système de j'achète des produits non adaptés pour ma peau. Au mieux, ils ne produisent pas les résultats escomptés. Et au pire, ils abîment un peu plus ma peau et on camoufle tout avec du make-up. Et finalement, j'étais un peu résignée et j'avais développé la croyance que c'était ma peau qui ne voulaient pas se conformer aux produits parce que on grandit avec ce manque d'éducation totale, tu sais, sur la physiologie d'une peau mélanique, et on pense un peu comme tout le monde que, à part cette pigmentation qui est la différence visible, une peau, c'est une peau, alors que c'est pas vrai.
Justement, dis-nous un peu, quelles sont les différences? Est-ce qu'il y a de vraies différences entre une peau noire et puis une peau blanche, quoi?
Oui, il y en a, et je l'ai réalisé finalement un peu plus tard. Donc en 2013, j'ai suivi mon compagnon qui allait développer sa start-up à New York. Et à New York, j'ai rejoint une agence de full service e-commerce qui gérait essentiellement des marques de cosmétiques de luxe françaises. Et c'est là où j'ai eu mon premier contact avec le monde professionnel de la beauté. Et l'une des marques que je gérais dans mon portefeuille, c'était Black Cop Cosmetics, que tu dois connaître. Donc c'est l'époque pré-Fenty, hein, et trouver un fond de teint pour une peau aussi foncée que la mienne, c'était un vrai challenge. Donc la première fois que je porte du Black Cop, j'ai vraiment un coup de cœur pour le produit. C'est la première fois que je mets du make-up qui offre une belle couvrance avec une sous-teinte qui correspondait à ma peau, et je ne suis pas grise après quelques heures. Et ça, c'était vraiment huge pour moi. Et le développement de Black Cop aux États-Unis était essentiellement organique parce qu'on n'avait pas beaucoup de budget. Donc, j'ai tissé vraiment autour de moi un réseau de make-up artistes, de gourous YouTube. C'était le tout début de l'influence à l'époque, des éditrices beauté, mais aussi les clients de Black Cop. Et dans mes diverses conversations avec ces femmes, qui étaient noires, oui, mais aussi métisses, mais aussi des peaux mates asiatiques, il ressortait toujours une grosse frustration autour du skincare. Et c'était une frustration que moi, je ne connaissais que trop bien. Mais j'étais un peu confuse parce que quand on grandit en Europe, on pense que, en fait, les questions d'inclusivité dans la beauté ne se posent pas vraiment aux États-Unis parce que les populations à peau mélanique là-bas sont, voilà, la population est plus importante, plus visible, alors que ce n'était pas le cas. Et autant pour le make-up, le problème était facilement explicable parce que voilà, l'industrie fabrique du make-up avec des bases blanches qui ne ressortent pas bien sur les peaux foncées, où il n'y a pas assez de teintes foncées, où les sous-teintes sont complètement off. Donc, on comprend assez logiquement le problème. Mais je n'arrivais pas tout à fait à comprendre justement quel était le lien entre le manque de satisfaction et pour les soins de la peau et les peaux riches en mélanine, parce qu'ici, il n'y avait pas le problème de pigmentation. Et la réalité, pour revenir à ta question, c'est qu'au-delà de cette pigmentation qui est visible, les peaux de phototype 4, 5, 6 sur l'échelle de Fitzpatrick, qui est donc une forme de classification de la peau basée sur la quantité de mélanine, mais aussi la réaction à l'exposition au soleil. Donc, je ne sais pas si tu connais l'échelle Fitzpatrick.
L'échelle de Fitzpatrick, bien sûr.
1, 2, 3, les peaux blanches. 4, 5, 6, ce sont les peaux mates, foncées, peaux métissées, jusqu'aux peaux noires. Et ces peaux, au-delà de cette pigmentation, ont des vraies différences structurelles et fonctionnelles qu'il faut prendre en compte dans le processus de R&D et dans les tests d'usage. Mais en général, ce n'est pas le cas parce que tout est basé sur les peaux, les caractéristiques des phototypes 1, 2, 3. D'accord. Donc, quand on a une évidence scientifique qui montre que la couche cornée de ces peaux est plus dense et qu'il existe une altération du film hydrolipidique, donc cette barrière cutanée qu'on a notamment sous des climats froids, qui va favoriser une perte d'eau transépidermique et qui va aussi diminuer les facteurs d'hydratation naturelle. C'est à factoriser dans la R&D. C'est très important si on veut vraiment hydrater ses peaux. Et surtout quand on sait que pour compenser cette déshydratation, les glandes sébacées vont être surstimulées. Ça va créer de l'excès de sébum qui induit des problèmes cutanés tels que l'acné, la brillance. C'est à factoriser dans la R&D. Quand on sait que l'acné ou toute autre inflammation d'ailleurs, vont surstimuler les mélanocytes chez ces peaux-là. Les mélanocytes, ce sont les cellules qui produisent la mélanine. Contrairement aux phototypes 1, 2, 3, ils sont très, très robustes. Chez les phototypes 4, 5, 6, ils sont robustes, ils sont hyper réactifs, c'est normal. Ils ont beaucoup plus de mélanine à produire. Et la mélanine, c'est un élément de défense aussi pour la peau. Donc, les mélanocytes sont géniaux parce qu'ils nous produisent cette mélanine qui nous qui nous protège, qui nous donne ces peaux magnifiques, mais ça veut dire aussi que tout ce que la peau interprète comme une irritation, comme une inflammation, que ce soit ça peut être des facteurs environnementaux, ça peut être les soins, une exfoliation mécanique, exfoliation trop agressive, des ingrédients cosmétiques à trop forte concentration ou qui dessèchent la peau, qui la graissent. Tout ça va provoquer une surréactivité chez le mélanocyte qui va produire un excès de mélanine pour protéger la zone agressée. Et ça, ça va créer de la dyschromie, soit sous la forme de taches achromiques ou des zones hyperpigmentées. Et c'est à factoriser dans la R&D. Ça, c'est la raison pour laquelle l'hyperpigmentation est tellement, c'est un énorme problème dans la communauté. Mais on ne peut pas résoudre l'hyperpigmentation pour les peaux mélaniques si on ne prend pas en compte ce mode de fonctionnement du mélanocyte. Ensuite, oui. On voit que la desquamation chez ces peaux, elle est 2,5 fois plus importante. Donc, elle va se traduire par des lamelles micacées grises. Et cette descamation est responsable du ashy, ce qu'on appelle ashy skin, le teint terne.
Oui, le teint gris, le teint terne.
Voilà, et poussiéreux. C'est à factoriser dans la R&D. Je veux dire, l'évidence est là à trouver pour tous ceux qui la veulent. Mais il y a un nombre de facteurs structurels, de facteurs fonctionnels qui sont importants pour ces peaux. Et en plus, l'impact que le climat, en tout cas pour ces phototypes qui vivent sous des climats froids et tempérés et qui ont une barrière cutanée qui est faite en fait pour des climats chauds et humides, tout ça est important. Or, aujourd'hui, notre industrie, que ce soit les grands groupes qui ont cette capacité d'innovation et des R&D, qui n'incluent pas les spécificités de ces peaux dans leur R&D, ou les marques indépendantes, qui achète des formules en label blanc auprès de laboratoires qui n'incluent pas ces peaux dans leur R&D et des tests. Donc, finalement, on se retrouve avec une industrie qui est très focusée sur les problématiques des phototypes 1, 2, 3. Donc, on se retrouve avec une population qui, mondialement, n'est pas adressée d'un point de vue physiologique, alors que globalement, elle constitue la majorité mondiale. Les 4, 5, 6, c'est la majorité mondiale et qu'elle participe énormément financièrement et culturellement au dynamisme de ces secteurs. Donc, moi, j'ai un peu relevé tous ces faits et j'ai décidé de créer 4, 5, 6 avec une équipe de scientifiques, mais vraiment avec une...
Oui, justement. Justement, j'allais te demander.
Oui, voilà, de challenger le statu quo, mais juste répondre à ce besoin en se basant sur la science et en allant créer cet équilibre haute performance et tolérance qui respecte la sensibilité des peaux de phototype 406.
Mais du coup, comme il n'y a pas justement, je pense, beaucoup d'études qui ont été faites sur les peaux noires, comment vous avez procédé pour formuler Alors, tu l'appelles 4-5-6 ou 4-5-6?
On se l'approprie dans sa propre langue, 4-5-6, 4-5-6, 4-5-6.
D'accord.
C'est un
international.
Nom... Voilà, c'est international.
Donc, on va dire 4-5-6 skin.
Franciscine pour la France. Voilà. Oui, effectivement, on n'a pas, que ce soit d'un point de vue dermatologique ou formulation, il n'y a pas énormément de recul aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de recherche sur ces peaux, mais nous, on a vraiment basé 4-5-6 sur une parfaite compréhension des peaux riches en mélanine, la reconnaissance de leurs spécificités et une recherche scientifique et clinique qui nous a permis de sélectionner des ingrédients biomimétiques pour aller créer dans ces formules qui permettent d'atteindre ce meilleur rapport efficacité de tolérance validé par des tests sur sur les peaux mélaniques. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui moi je ne suis pas seule sur 4-5-6. J'ai deux associées, donc une qui est pharmacienne spécialiste en dermocosmétique qui est arrivé sur le projet avec 5 ans d'expérience en formulation magistrale sur ces peaux-là. Donc, on sait très bien ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire sur cette peau. On a également un dermatologue américain, le Dr Charles, qui est également cofondateur de 456, qui nous sert vraiment de caution scientifique, qui nourrit le projet de son feedback parce que c'est une cible qu'il soigne tout le temps. Et évidemment, on a commencé le projet, comme tu le sais, chez LVMH Recherche, via le programme Cosmetop, ce qui nous a permis aussi d'avoir l'appui d'un grand groupe, mais aussi d'aller mettre en place des partenariats avec des institutions publiques et privées pour faire tous nos tests et donc aller créer ces formules aujourd'hui qui correspondent à 100% aux besoins des peaux de phototype 4, 5 et 6.
Et alors, est-ce que tu as écarté certains ingrédients incompatibles avec les peaux noires ?
Oui, évidemment. Déjà, quand on formule pour ces peaux, et je pense que ça devrait être le cas pour toute peau en fait, si on met vraiment la physiologie de la peau et ses besoins au centre de sa démarche, naturellement, il y a des ingrédients qu'on ne va pas utiliser. Nous avons écarté les ingrédients que nous considérions incompatibles avec la structure et la fonctionnalité des peaux foncées. Et ensuite, il y a
comme,
aussi…
Comme quoi, par exemple ?
Alors, déjà, je parlais de cette problématique d'hydratation, le manque de, voilà, la sécheresse, la déshydratation de la peau. Donc, une des premières choses qu'on a fait, c'était d'écarter l'utilisation de l'eau du robinet ou de l'eau déminéralisée. C'est une eau morte pour formuler. C'est malheureusement le standard de l'industrie aujourd'hui. Les formules sont faites à base d'eau déminéralisée, ce qui est un peu un non-sens. Donc, on a préféré travailler, par exemple, avec de l'eau vitalisée. C'est une eau qu'on vient biodynamiser. Donc, on lui redonne des minéraux. Donc, c'est une eau qui va posséder des propriétés anti-inflammatoires et qui a tout simplement un caractère biocompatible avec l'épiderme et qui permet de vectoriser les formules et de les dynamiser. Donc, pour la peau, c'est mieux à utiliser qu'une eau déminéralisée qui est une eau morte, en fait.
Ok, d'accord.
En plus de cette eau, de cette eau déminéralisée, au niveau des ingrédients fonctionnels, on a exclu tous les sulfates, des poudres plastiques, tous les silicones, des microbilles. Notre système conservateur ne comporte pas de phénoxyéthanol. On a exclu les huiles minérales, les parabènes, tous les allergènes. Au niveau des ingrédients de performance, on évite d'utiliser des acides de fruits à fort pourcentage parce que ça peut se retourner contre la peau. On n'utilise pas d'hydroquinone pour éclaircir la peau. Mmh. Et on évite en général une très forte concentration d'ingrédients de performance parce que ça peut être très irritant pour les peaux riches en mélanine. On va plutôt utiliser des plus petites quantités de plusieurs ingrédients de performance pour créer une synergie entre eux pour plus d'efficacité et une meilleure tolérance de la peau. Et notre philosophie de formulation globale, c'est si un ingrédient apporte de la valeur ajoutée dans une formule, alors on l'inclut. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, si ça ne sert pas la peau, si ça ne sert pas la santé, l'environnement, on l'exclut tout simplement qu'il soit tendance ou peu cher. Mmh. Donc, on va plutôt se positionner sur des ingrédients qui sont biomimétiques, qui sont multitasking et qui viennent vraiment soutenir la peau et apporter des solutions sur le long terme, sur les conditions de peau.
D'accord. Comme quoi, par exemple ?
Eh bien, pour l'hyperpigmentation, ça c'est très intéressant. On a regroupé des familles d'ingrédients pour soigner l'hyperpigmentation en commençant par des exfoliants chimiques et enzymatiques qu'on utilise. Ensuite, on va utiliser des ingrédients qui viennent inhiber la tyrosinase comme de l'alpha-arbutine, du glutathion. On utilise la vitamine C naturelle, donc à base d'acérola, pas d'acide. acide ascorbique. On va utiliser du Lilium candidium, voilà, plein d'ingrédients en fait qui sont biomimétiques et on tire pas mal d'enseignements de la nature et du fonctionnement du corps pour aller tweaker et créer ces ingrédients qui s'adaptent parfaitement à la structure et à la fonctionnalité des peaux mélaniques. Donc, c'est toujours une histoire de créer vraiment un ensemble d'ingrédients qui créent une synergie et aident la peau à mieux guérir au lieu d'utiliser, par exemple, un seul ingrédient pour essayer d'éclaircir la peau ou d'enlever les taches parce que ça ne fonctionne pas pour les peaux mélaniques.
Bien sûr. Et alors, votre point fort, c'est la customisation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on personnalise son produit, en fait, quand on est seul devant son ordinateur et devant le site, qui est en anglais d'ailleurs, comment on fait, en fait, pour choisir son produit?
Alors, c'est très simple. Il faut comprendre que nous, dans notre processus, on crée tout d'abord ce qu'on appelle des core blends. C'est des master formules. C'est à ces niveaux-là qu'on adresse vraiment les problèmes d'hydratation, de régulation du sébum, calmer la peau, renforcer la barrière hydrolipidique, etc. Et ensuite, on crée des complexes de personnalisation qui vont adresser une condition spécifique pour chacune de ces master formules qu'on vient adapter donc au phototype de peau, au type de peau et à certaines préférences sensorielles. Donc, si tu viens sur notre site, donc pour la France, c'est le site eur.456skin.com, tu peux choisir ta routine selon tes objectifs. Donc, si c'est l'hyperpigmentation, tu choisis la routine hyperpigmentation et ensuite tu viens renseigner ton phototype, tu vas dire moi Chantal je suis phototype 5, j'ai la peau sèche et mes problématiques donc c'est des taches hyperpigmentaires, j'ai la peau terne ou j'ai de l'acné. Alors nous, on a des milliers de combinaisons possibles justement par rapport à ce choix et on a un algorithme qui va ensuite computer ces informations et envoyer une commande au labo où on va assembler la master formule avec les complexes de customisation en se basant sur les critères que toi tu as renseigné. Donc ça, c'est une manière de faire. Et pour les clientes qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement, elles peuvent également passer par notre chat sur Messenger pour avoir une consultation gratuite.
Très bien, super. Et alors, dans les problématiques, j'ai vu qu'il y avait de l'acné, les taches, les points noirs, les cernes, mais j'ai rien vu sur la perte de tonicité de la peau, l'anti-âge.
Tout à l'heure, je parlais du fait que les peaux riches en mélanine ont plus d'élastine, plus de collagène, donc elles vieillissent moins vite, on va dire. Donc, on a décidé d'adresser quand même les ridules, pas les rides, pour les phototypes 4 qui sont plus clairs et donc peuvent perdre un peu plus rapidement leur tonicité. Mais ultimement, hein, quand une ride est formée, on peut difficilement l'effacer qu'avec du skincare. Ça, je n'y crois absolument pas. On a des formules bourrées de silicone et de poudre plastique qui peuvent donner cette impression de lissage de rides, mais c'est juste vraiment un effet d'optique. Mais la meilleure solution, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans nos formules, c'est la prévention. Et ça passe par l'utilisation des formules qui contiennent des agents d'hydratation profond, des antioxydants, pour protéger la peau contre les radicaux libres, les agents de renouvellement cellulaire, de l'exfoliation. Et on a tout ça dans nos formules. Donc, même si ce n'est pas le besoin principal de notre cible, c'est quand même adressé. Et surtout que maintenant, notre focus est sur les 25-40. En général, elles ne viennent pas nous voir parce qu'elles ont des rides. Mais on adresse quand même ce besoin de la peau et on redit toujours l'importance donc de la prévention et surtout de porter sa protection solaire surtout en période estivale. Et d'accord. Ça c'est la meilleure manière d'adresser, on va dire, l'anti-âge pour toute peau mais aussi pour les peaux mélaniques.
La marque a été lancée en novembre dernier. As-tu déjà des retours d'expérience?
Oh oui, on a énormément de retours d'expérience. Donc, on a lancé en novembre dernier, en plein Covid, et on a dû s'adapter très vite aux effets du confinement. On a eu pas mal de couacs, le fournisseur PAC en Italie qui ferme, donc ouais. Pivot rapide sur le PAC, les travaux du laboratoire retardés, interrompus par le confinement, nos machines de production qui sont arrivées en retard. Enfin, c'est une période assez difficile où l'équipe a dû faire preuve de beaucoup de résilience. Mais en novembre, on s'est lancé sans vraiment être prêt, mais on l'a fait quand même pour aller récolter du feedback client et itérer sur la base de ce feedback. Et on a vraiment des super retours d'expérience, que ce soit des journalistes de la presse qui ont essayé, qui ont testé nos produits et qui ont rédigé des articles géniaux sur nous et c'est devenu des clientes, mais aussi des influenceurs qui ont participé à notre campagne de lancement, mais surtout des clientes qui non seulement adorent le concept parce qu'elles comprennent que elles sont au centre de tout ce qu'on fait, mais on a surtout des produits qui donnent des résultats et donc pour un début c'est très encourageant.
Mais alors, justement, tu parles de la presse, des influenceuses, etc. Mais vous avez lancé en Angleterre. Donc, tu as choisi de lancer tes soins en Angleterre, pas en France, alors qu'ils ont été conçus en France. Pourquoi ?
Parce que, alors, 456 est une marque digitalement native. Et quand on se lance en ligne, c'est quand même important de connaître son marché adressable. En France, ça reste assez complexe de connaître le nombre de Français et Françaises qui sont des phototypes 4, 5, 6, parce qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques. Et en Angleterre, cette information, elle est disponible, elle est publique. Mais aussi, okay. Le taux de pénétration e-commerce est plus élevé en Angleterre. C'est d'ailleurs le premier en Europe pour la vente en ligne. Donc, c'est quand même important de se positionner sur un pays où on connaît son marché et on est sur des modes de consommation qui correspondent au modèle. Et on voulait aussi avoir ce positionnement à l'international dès le début, de travailler directement en anglais pour avoir un effet de halo pour d'autres nations anglophones et notamment les États-Unis qui représentent le marché à plus fort potentiel pour 456. C'était une bonne décision parce qu'on voit qu'aujourd'hui les États-Unis représentent 10% de notre chiffre d'affaires alors qu'on n'y est pas encore lancé. Et puis notre objectif, c'est en fait de créer une marque forte, une marque internationale. Et pour ça, il faut aller là où on peut identifier sa cible, où on a le plus fort potentiel. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de se lancer au UK en premier et pas en France.
D'accord. Mais bon, quoi qu'il arrive, on peut quand même commander les produits, même quand on est en France.
Effectivement, nous livrons dans toute l'Europe, nous livrons au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Asie. Nos clientes françaises peuvent recevoir leurs produits 456 en passant commande sur le site. Normalement, ça arrive en 24 heures.
D'accord. Et tu envisages la suite, j'imagine ?
Oui, évidemment. En termes de R&D, notre objectif, c'est vraiment de créer un catalogue complet de produits à forte valeur ajoutée pour nos clientes, que ce soit les soins du visage. On a commencé par ça. On continue des temps de catalogue avec un soin solaire qui est en développement et un nouveau sérum qui va targeter l'acné et l'hyperpigmentation. Mais on va travailler aussi les soins du corps, les nutracétiques pour la peau et les soins capillaires. Et l'objectif, c'est que d'ici à 3 ans, les femmes 4, 5 ou 6 puissent venir sur notre plateforme et pouvoir satisfaire tous leurs besoins beauté from head to toe avec la confiance qu'elles sont le centre de toute notre innovation produit.
D'accord. Bon, je pense qu'on a, compris, mais pourquoi 4, 5, 6 skin alors?
Parce qu'on a eu un peu de mal à nommer le projet. Moi, je souhaitais vraiment rester éloignée de cet héritage socio-culturel qui parfois peut être pas très élévateur pour notre cible. Je voulais rester éloignée des termes ethniques, urbains, ou carrément. Être juste afrocentrique parce qu'une partie de notre cible n'est pas afro-descendante. Et donc, finalement, on a choisi la science et la physiologie de la peau. Et 4, 5, 6, c'est parce que nous faisons des soins pour les peaux de phototype 4, 5 et 6 sur l'échelle de Fitzpatrick.
Voilà, tout simplement. Merci Noélie.
Merci Chantal. Au revoir.
Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.